Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. L'égalité. Pourquoi sommes-nous si attachés à ce mot, à l'égalité ? Et le sommes-nous réellement ? Voici le point de vue de Raymond Boudon, qui est sociologue, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour Raymond Boudon, merci
Bonjour.
D'être avec nous. Raymond Boudon, vous vous êtes fréquemment penché sur cette question de l'égalité. On connaît notamment votre livre « L'inégalité des chances » publié déjà en 1973 et qui a connu de nombreuses rééditions depuis. Et puis, vous avez écrit tout récemment un article dans la revue Commentaire pour le 30e anniversaire de la revue Commentaire et vous avez signé l'article qui est consacré à l'égalité. Est-ce que vous avez fait ce choix de vous pencher sur l'égalité dans cette revue Commentaire ou ça vous a été imposé ?
Imposé, le mot est peut-être un petit peu fort, mais on m'a demandé si je voulais traiter de l'égalité et j'ai dit oui.
Alors, d'après vous, vous distinguez différentes sortes d'inégalité, en fait. Pour commencer, dans votre article, pour parler d'égalité, vous parlez d'abord d'inégalité. Vous parlez d'inégalité consentie, en quelque sorte, et puis des inégalités abusives, celles qui ne seraient pas méritées.
Oui, ce mot égalité, bien qu'il soit dans la devise républicaine...
En deuxième position. Hein.
En deuxième position, alors que l'ordre alphabétique aurait voulu qu'il soit en première. Mmh, mmh. Bon, ça veut dire sans doute que ceux qui ont créé la fameuse devise ont donné davantage de poids à la liberté qu'à l'égalité, parce qu'en réalité, lorsqu'ils parlaient d'égalité, ils parlaient d'égalité des droits, essentiellement. Et l'égalité des droits, c'est l'égalité des libertés. Mmh. C'est pour ça que le mot liberté est arrivé en tête.
Et égalité des droits, donc démocratie.
Donc démocratie, bien entendu.
Est-ce que pour vous aussi, l'égalité vient en second après la liberté, ou peut-être on en reparlera un peu plus tard ?
Oui, je pense que ça vient en second après la liberté. Effectivement, ce qui fonde l'idée de démocratie, sur laquelle il y a tout de même un consensus universel pour dire que la démocratie, c'est tout de même une bonne chose, la meilleure forme de gouvernement, ce qui définit la démocratie, c'est tout de même essentiellement un effort pour que les libertés de chacun soient aussi respectées et garanties que possible. Donc la liberté vient en premier. Ceci dit, je répète, étant donné qu'il faut que tout le monde ait les mêmes libertés et les mêmes droits, l'égalité des droits est également quelque chose de tout à fait essentiel à la définition et au fonctionnement de la démocratie.
Alors pour revenir à la question, pourquoi est-ce que vous commencez votre article par définir ce que c'est que l'inégalité, en fait ?
Parce que l'inégalité, c'est ce qui fait mal. L'inégalité, c'est ce qu'on considère comme devant être supprimé. Enfin, il y a des passions autour de ça. Tocqueville a dit que l'égalité était en France, ou plus généralement dans les sociétés démocratiques modernes, une passion générale et dominante. Passion générale. Ça voulait dire, qu'est-ce que c'est qu'une passion générale ? Ça voulait dire une passion partagée par tous, c'est-à-dire nous dirions plutôt une valeur dominante. Mmh. Donc l'idée de Tocqueville, c'est que l'égalitarisme est un penchant fondamental dans les sociétés modernes. Ceci dit, je crois qu'on a souvent très très mal compris la formule de Tocqueville, précisément parce que lui insistait essentiellement sur l'égalité des droits, l'égalité des libertés. Jamais il n'a considéré l'égalité des conditions ni comme quelque chose qui soit désirable, ni même comme quelque chose qui soit réalisable. Alors c'est pour ça que j'ai articulé l'article un petit peu autour. C'est un article qui essaye de mettre un peu d'ordre dans les idées, c'est-à-dire de distinguer différentes formes d'égalité et différentes formes d'inégalité.
L'égalité serait d'abord une perception par rapport à soi, évidemment. Et dans cet article, vous faites surtout valoir l'idée que la perception par rapport à soi n'est pas forcément celle qui est dominante, mais que chaque homme serait un animal politique beaucoup plus malin et qui verrait les choses avec beaucoup plus de hauteur qu'on ne penserait a priori. C'est une idée que vous défendez assez souvent.
Oui, c'est une idée qui a été pendant très longtemps une banalité. Mmh. L'idée...
Chez Rousseau, c'était une banalité.
Rousseau, c'était une banalité, mais pas seulement chez Rousseau, chez Leibniz, chez Hobbes, un petit peu chez tout le monde.
Hobbes, oui.
L'idée qu'il y a une nature humaine et qu'elle est présente chez chaque homme fait que tout ce qu'on accorde à l'un doit être accordé à l'autre. Enfin, et c'est la base de l'idée de démocratie, c'est celle-là. C'est l'idée selon laquelle chacun doit avoir un accès, une parcelle de pouvoir pratiquement identique, si vous voulez. Mmh, mmh. Alors, c'est une idée qui a été ensuite mise en brèche à partir du 19e siècle, au moment où on a pensé qu'on a insisté beaucoup sur l'inconscient, sur le fait que l'homme est décentré par rapport à lui-même, que ce qu'il pense, c'est le contraire de ce qu'il croit penser, et réciproquement, etc. Mais ça, c'est une évolution relativement récente. Depuis l'Antiquité grecque jusqu'à la philosophie des Lumières, en passant par le christianisme, qui n'a fait qu'exprimer de manière symbolique, dans une très large mesure, les mêmes idées, il y a une égalité de dignité des hommes. Ceci dit, une fois qu'on a parlé d'égalité de dignité, la question est évidemment de savoir comment on définit cette dignité. C'est là que les difficultés commencent, et que l'histoire commence même.
Tout à fait. Et donc, vous défendez l'idée que l'homme s'accommode, en fait, d'inégalité sociale. Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Là, nous parlons d'égalité... et des conditions. Mmh. Bon, on sait très bien que les professions sont inégalement rémunérées en moyenne. Enfin, d'après les enquêtes des sociologues, les gens en général acceptent l'idée qu'il puisse y avoir une certaine indexation des rémunérations sur les mérites, sur les compétences. Vous voyez, chacun admet qu'à partir du moment où vous exercez un métier comme celui de médecin, qui demande une préparation d'une dizaine d'années, voire davantage, bien entendu, chacun admet que le médecin doit être, en principe, davantage rémunéré que celui qui exerce une profession qui n'a demandé qu'une préparation beaucoup plus courte. Alors, je parle ici de la préparation, mais il y a aussi les risques encourus. Chacun admet que celui qui accepte de prendre des risques importants pour le compte, pas de lui-même, mais d'autrui, on en tienne compte et que ceci se traduise par une rémunération supérieure par rapport à celui qui a un travail qui n'implique qu'un niveau de risque plus faible. Alors, c'est ce que les sociologues appellent des inégalités, dans leur jargon, des inégalités fonctionnelles, c'est-à-dire qu'en fonction de l'investissement qui est nécessaire pour exercer une profession, du degré de compétence que vous devez atteindre, en fonction du degré de risque que vous encourrez en exerçant votre profession, etc., ceci doit se refléter d'une certaine manière dans les rémunérations. C'est une très très vieille idée. C'est une idée que vous trouvez chez Aristote, par exemple, tout bêtement. C'est l'idée de la justice rétributive, n'est-ce pas ? La justice rétributive. On doit être d'autant mieux payé qu'on a davantage contribué au bien commun. Et ça, ce que disait Aristote au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on le retrouve chez les gens qu'on interroge dans les enquêtes ou dans les sondages modernes des sociologues. Les gens acceptent, autrement dit, très facilement l'idée que vous ayez des inégalités à partir du moment où ces inégalités se justifient d'un point de vue fonctionnel.
En revanche, lorsqu'elles apparaissent comme un privilège qui fait référence à la révolution de 89, on pense tout de suite à ça, là, en revanche, l'inégalité est beaucoup moins acceptée.
Oui, je crois que l'idée de base, c'est que l'inégalité est acceptée à partir du moment où elle est justifiée. Alors, je citais tout à l'heure là, le cas des inégalités qui sont justifiées parce que correspondra à des niveaux d'investissement ou de compétences inégaux. Mais vous avez aussi le cas où des inégalités ne se justifient pas, mais ne sont pas condamnables. Lorsque, par exemple, vous prenez deux personnes qui exercent exactement la même profession, les mêmes tâches, mais qui appartiennent à des entreprises ou à des régions qui sont plus ou moins dans un état de santé économique très différent. Bien, les gens acceptent fort bien que les gens de la région A et de la région B fassent exactement les mêmes tâches, les rémunérations soient différentes, parce que le niveau de capacité des entreprises ou des régions de rémunérer les gens est différent. Donc ça, c'est également accepté. On accepte également des inégalités qui ne sont pas fonctionnelles, mais qui sont le résultat de la volonté des individus. Je prends ici le cas des vedettes du sport ou du spectacle. Alors, chacun sait très bien qu'ils peuvent avoir des rémunérations extrêmement élevées. Mais ce que les enquêtes un peu fines semblent démontrer, c'est que lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils pensent de ces rémunérations très élevées, du sportif ou de la vedette du spectacle, ils les acceptent, ils les trouvent excessives, mais pas injustes. Probablement parce que derrière, il y a cette idée que ces rémunérations sont dues au fait que tout à fait librement, des millions de fans ou de spectateurs accordent leur suffrage à la vedette du sport ou à la vedette du spectacle. Donc c'est le choix des individus.
Ou que c'est momentané, c'est aléatoire.
Ou que c'est momentané, que c'est aléatoire, etc. Ceci dit, bon, il y a aussi le sentiment que c'est un peu excessif, mais je pense que les gens accepteraient fort bien ces inégalités, ce type d'inégalités-là, si elles le sont d'ailleurs, elles bénéficient à la communauté via la taxation fiscale. Et par conséquent, il y a une certaine redistribution qui se fait, et sous cette condition, les gens admettent les inégalités. Alors effectivement, ce que les gens n'admettent pas, c'est les inégalités non justifiées. Et une inégalité non justifiée, ça s'appelle un privilège. Et c'est pas seulement sous la Révolution qu'on a découvert les privilèges. On n'a jamais aimé les privilèges. Ça tient un petit peu à la nature humaine. En ce sens, c'est un petit peu le contrepoint ou la réciproque de ce que nous disions tout à l'heure. Les inégalités, si elles sont justifiées ou si leurs causes sont non maîtrisables, on les accepte. En revanche, à partir du moment où il s'agit d'une rente de situation, où vous êtes davantage payé parce que vous êtes à tel endroit plutôt qu'à tel autre, à ce moment-là, un privilège se constitue, une rente se constitue, et ça a toujours été mal accepté. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut toujours mettre fin facilement à toutes les rentes et à tous les privilèges, mais alors, pour citer des exemples contemporains, on sait très bien que le public réagit fort mal lorsqu'il apprend que tel chef d'entreprise, en plus si le chef d'entreprise en question a mis l'entreprise en faillite, se retire avec un parachute doré. Alors ça, c'est un objet de presque de scandale, parce que ça contredit des principes fondamentaux d'équité et de justice.
Ce qui est assez étonnant aussi, là c'est une nouvelle toute récente, on enregistre cette émission en juin 2008, et Cuba a décidé d'accepter pour la première fois qu'il y ait des inégalités de salaire. Je ne sais pas si vous avez
oui,
vu cette
oui,
nouvelle,
j'ai vu ça.
Qu'il n'y a plus le même salaire pour tout le monde, et d'accepter justement ces différences de salaire. C'est très étonnant qu'une société égalitariste à l'extrême, comme l'était Cuba, arrive à ce genre de raisonnement. Et ça a l'air, là, comme vous le disiez, devenir raisonnable et accepté par tout le monde. Comment
oui.
vous analysez ?
Ah ben, ça a toujours été comme ça. Vous savez, il y a toujours eu des épisodes, il y a d'autres exemples, des épisodes d'idéologie de façon volontariste, égalitaire, d'idéologie égalitariste volontaire. Vous citez l'exemple de Cuba, ça a duré très longtemps parce qu'il y avait la garantie de Fidel. Mais les kibbutz, à l'origine, c'était la même chose. À l'origine, les kibbutz, dans les premières périodes, les kibbutz très idéologiques, c'était ça aussi. Vous aviez une égalité complète des salaires, tout était collectivisé. Ça n'a pas duré, ça n'a évidemment pas duré parce que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer tout simplement parce que ça incite, si vous voulez, les uns à profiter les autres, ça incite au mécanisme qu'on appelle du passager clandestin. Si je sais que je vais avoir le même salaire que vous, pourquoi est-ce que je me décarcasserais si vous êtes fait de telle manière que vous avez envie de travailler et que moi j'ai plutôt tendance à la paresse, je vais profiter de la situation pour me laisser aller, sachant que le résultat sera le même. Alors donc c'est un mécanisme, le mécanisme, l'égalitarisme volontaire est toujours voué à l'échec. Alors, il peut être maintenu très artificiellement pendant un moment, mais dès que le couvercle de la soupière se lève, tout le monde est content, parce que quand même, tout le monde a plutôt envie de vouloir faire quelque chose, de vouloir être utile, c'est une espèce de besoin très général. Ceci dit, il y a des différences d'énergie, des différences de compétences, etc., entre les gens, mais le modèle égalitariste n'a jamais été imposé que par la force. Dès que la force se détend, l'inégalité réapparaît nécessairement pour des raisons que Aristote avait déjà indiquées.
Est-ce que justement c'est pas un tiraillement un peu fonctionnel de la société qui est de la majorité de la société qui souhaite que ou c'est une passion comme vous avez dit au tout début de l'émission, c'est ce besoin d'égalité et puis les pouvoirs publics qui doivent juguler comme ça différentes forces sociales qui souhaitent des choses différentes.
Oui, eh ben les pouvoirs publics ils ont un devoir. qu'ils ont toujours reconnu. Enfin, ils l'ont mis en œuvre de manière plus ou moins efficace selon les cas. Mais les pouvoirs publics ont toujours considéré que dans une société, vous avez toujours... Il y a trois classes sociales dans les sociétés. Malheureusement, depuis Marx, on est habitué à avoir sur les classes sociales des idées un petit peu bizarres, compliquées. Il y en a trois, il y en a sept, il y en a huit, il y en a 25. En fait, il y en a trois, si on y réfléchit. Il y a ceux qui sont très, très, très riches au sens où ils ont non seulement ce qu'il faut pour vivre, mais ils ont un surplus suffisamment important pour transformer leur pouvoir économique en pouvoir politique. Par exemple, si vous êtes dans un système politique corrompu, vous achetez des politiques, vous achetez des voix. Il y a des gens, autrement dit, il y a une classe de gens qui ont un surplus considérable qui leur permettent toutes sortes d'opérations. Vous avez une classe moyenne qui vit correctement, en tirant plus ou moins le diable par la queue selon les moments, mais enfin qui vit à peu près correctement, ce qu'on appelle la classe moyenne, et qui constitue l'essentiel dans les sociétés modernes, depuis un moment déjà tout de même, déjà depuis le 19e siècle, qui constitue l'essentiel. Puis vous avez toujours une classe de gens qui sont à la traîne, qui n'arrivent pas à trouver un emploi, qui n'arrivent pas ou qui ont des difficultés de santé, ou qui ont des difficultés de caractère, etc., etc. Et les États ont toujours...
Ou qui ont un emploi qui est très mal rémunéré.
Ou qui ont un emploi qui est très mal rémunéré, etc. Donc les États ont toujours considéré qu'il fallait maintenir cette classe numéro 3, il fallait la maintenir à flot, et que c'était un des devoirs de l'État. C'est ce que les Anglais du XVIIIe siècle avaient admis quand ils ont fait leur loi des pauvres, leur poor laws. Et vous savez, c'est ce que Bismarck a fait lorsque, de manière très visionnaire, en Allemagne, il a créé un système de sécurité sociale, etc. Voilà, oui. Donc il y a toujours effectivement une nécessité pour que l'État intervienne pour... empêcher, comme disait Rousseau, une société marche bien lorsque les riches sont pas trop riches et les pauvres pas trop pauvres. C'est une espèce de loi, si vous voulez avoir une société cohérente. Vous voyez pourquoi une société comme le Brésil, par exemple, est une société extraordinairement violente. C'est une société qui ne marche pas trop mal depuis un certain temps, qui a été dans le bon sens, qui revient de très loin. On a eu des dictatures militaires vraiment très insupportables. Maintenant, on a une démocratie, on a une augmentation du niveau de vie, etc. Mais ça reste profondément une société dualiste. Vous avez des riches et des pauvres, et la classe moyenne a du mal à émerger vraiment. Et par conséquent, la violence considérable de cette société est en partie due à ça. C'est pour ça qu'il y a un devoir de régulation des autorités politiques qui est de faire en sorte que ce système à trois classes soit que les riches soient pas trop riches, que les pauvres soient pas trop pauvres, ceci grâce à une politique fiscale aussi intelligente que possible.
Mais en France, quand on voit le graphique de la variation et de l'évolution des revenus, on voit justement que les revenus les plus aisés ont beaucoup plus augmenté proportionnellement aux revenus moyens.
Oui, c'est exact. Mais le bon sens des gens fait qu'ils le comprennent, ça. Et là, ce que les enquêtes nous disent, c'est que les gens comprennent très bien qu'il y a des inégalités qui sont fabriquées par des forces que personne ne peut maîtriser. Et par conséquent, ce sont des inégalités qui ne sont pas forcément un objet de réjouissance de la part des gens qui sont plutôt en bas de l'échelle. Mais il y a aussi des enquêtes qui montrent que les gens ne sont pas très sensibles aux inégalités globales. Pourquoi ? Pour une raison très simple qui dérive un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que si vous regardez les inégalités globales, les économistes, par exemple, font des jolies courbes des revenus, par exemple, et on voit effectivement, vous avez parfaitement raison, que ces courbes ont tendance à s'étaler. Aujourd'hui, ça a l'air de devenir de plus en plus inégalitaire. Mais les enquêtes montrent que les gens n'y sont pas très sensibles, pour des raisons de bon sens. Parce qu'ils savent très bien que qu'est-ce que vous avez derrière ces inégalités globales ? Vous avez des inégalités fonctionnelles, comme celles dont nous parlions tout à l'heure. Le fait qu'il y ait des positions qui impliquent davantage de risques, de compétences, puis d'autres moins. Ça, c'est des inégalités fonctionnelles. Puis vous avez des inégalités qui sont dues au fait qu'il y a des régions plus riches, des régions plus pauvres, qu'il y a des entreprises qui marchaient bien, et puis qui sont assises sur un créneau qui ne marche plus, Moulinex, etc. Bon. Donc il y a des forces sociales qui font que tout d'un coup, vous avez des types d'activités qui tout d'un coup sont moins rémunératrices. Et alors, les inégalités globales sont une espèce de panier extrêmement composite de toutes ces causes. Et je crois, Ah, ça, c'est une hypothèse que je fais. Mais ce que j'ai toujours constaté en regardant beaucoup les enquêtes sur ces sujets-là, c'est que les gens ne sont pas très sensibles aux inégalités globales. Ils sont très sensibles aux injustices, comme on disait tout à l'heure. Ils sont très sensibles à l'iniquité. Mais les inégalités globales, c'est plutôt les intellectuels, les économistes qui s'en occupent. Les économistes s'en occupent pour des raisons professionnelles, parce qu'ils passent leur temps à les mesurer. Et vous avez beaucoup d'intellectuels qui pensent que plus une société est égalitaire, meilleure elle est, ce qui n'est pas vrai du tout. Et puis vous avez le bon sens des gens qui dit, bon, les inégalités résultent de causes fonctionnelles et de causes non fonctionnelles, et personne n'est capable d'aller fouiller dans ce panier de causes et de dire, ben voilà, dans telle proportion, ce sont des causes fonctionnelles, dans telle proportion. Hein. C'est pour ça que les gens...
Causes, oui.
Vous savez, il y a eu des études expérimentales qui ont été faites, où on propose aux gens de regarder les distributions de revenus. Alors, ces distributions de revenus, certains ont une moyenne plus haute que d'autres. D'autres font apparaître des inégalités plus grandes que d'autres. L'étalement de la courbe est plus grand. Et on demande aux gens, alors, qu'est-ce que vous préférez comme distribution des revenus? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que l'étalement de la courbe, qui est un indice d'inégalité globale, hein, n'est pas du tout ce qui intéresse en premier lieu les gens quand on fait des expérimentations de ce type. Et on s'aperçoit que c'est transculturel, c'est-à-dire qu'il y a eu des expérimentations faites dans des contextes nationaux tout à fait différents. Je pense en particulier à une étude qui a été conduite aux États-Unis et en Pologne. Eh bien, dans les deux cas, on observe à peu près les mêmes résultats. Les inégalités globales, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Enfin.
Alors, qu'est-ce qui les intéresse?
Ce qui les intéresse, c'est la moyenne, une moyenne élevée et... ça veut dire un niveau moyen élevé, et aussi un plancher élevé. Un plancher élevé. C'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs que le sol ne se dérobe pas sous leurs pas au cas où il y aurait des difficultés.
D'accord.
Essentiellement, c'est ça.
Les
gens, c'est ça. Le plancher et la moyenne. Et ils s'intéressent à l'étalement, aux inégalités, lorsqu'on fait des variantes de cette expérimentation et qu'on précise aux gens que les inégalités ne sont pas fonctionnelles. Alors là, dans ce cas-là, ils veulent que les inégalités soient affaiblies.
Quand elles ne sont pas fonctionnelles, quand elles résultent, comme on parlait, de privilèges ou,
voilà,
ou
d'inégalités...
Voilà. Voilà.
C'est ça, quand elles résultent de privilèges, de positions de force, de rente de situation, etc., de mécanismes tels que ceux qu'on observe aujourd'hui, de stock-options, etc. Enfin, oui, là, dans ce cas-là, quand on voit qu'une proportion importante des inégalités est due à des causes non fonctionnelles, représente des privilèges. Alors oui, dans ce cas-là, les gens commencent à s'intéresser à la distribution globale.
Oui.
À l'écart-type, à l'étalement de la distribution, si vous voulez.
Donc c'est aux économistes de dire quand est-ce que la société bascule de causes fonctionnelles à des causes non fonctionnelles.
Ils ne sont pas capables de le dire.
Qui est capable
Ils
de le dire?
Ils n'ont pas personne. Personne, parce que c'est trop compliqué.
Mmh.
Simplement, on voit des bouts, si vous voulez. Quand, par exemple, on est à la situation actuelle, on voit très bien que vous avez des rentes de situation qui se font via les stock-options. Là, on identifie des causes non fonctionnelles qui sont en partie responsables de l'augmentation des inégalités. Là, on les voit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des cas, vous avez le panier des causes est recouvert d'un voile noir. Hein, et on ne sait pas quelle est la proportion du fonctionnel et du non fonctionnel. C'est pour ça qu'en régime normal, là maintenant, les sociétés sont en train de changer relativement brutalement. Mais il y a 10 ans, lorsque vous regardiez des sociétés en régime plus normal, dans ce cas-là, c'était impossible de savoir quelle était la proportion des différents types de causes.
Les académiciens de l'Institut de France s'expriment au micro de Canal Académie. Retrouvez le témoignage de François Jacob de l'Académie française dans notre médiathèque en libre écoute et libre téléchargement. François Jacob évoque sa carrière de biologiste, prix Nobel de médecine, ainsi que son entrée à l'Académie française. Un témoignage exclusif sur Canal Académie.
Raymond Boudon, il y a un terme qui est très fréquent depuis une bonne dizaine d'années en France, c'est l'inégalité des chances. Comment est-ce que vous différenciez, vous, l'égalité des droits et l'égalité des chances? Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose?
Ah non. Bon, la question qui est posée derrière cette expression, c'est de savoir si vous avez les mêmes chances que vous veniez, que votre famille d'origine appartienne au haut ou au bas de la société. Et la réponse, c'est non. Enfin, et on le voit... On le voit très bien lorsqu'on regarde les statistiques scolaires ou statistiques universitaires. Il y a une espèce de résistance de la relation entre l'origine sociale et le niveau scolaire.
Et pourtant, il y a une aspiration très forte de la société à une égalité à ce niveau-là.
Oui, parce que l'inégalité des chances, en principe, elle ne se justifie pas. L'inégalité des conditions dont on vient de parler, ou l'inégalité des revenus dont on vient de parler jusqu'ici, elle se justifie par les contributions des gens à la société. Mais l'inégalité des chances, elle ne se justifie pas. Il n'y a aucune raison, du point de vue de l'équité ou de la justice, pour que vos chances dans la vie, ou vos chances scolaires, ou vos chances dans la vie, dépendent de l'endroit où vous êtes né. Donc, je crois que c'est pour ça que le thème de l'inégalité des chances est un thème fondamental dans les sociétés démocratiques. Il y a une immense littérature sur cette question, parce que c'est un peu contradictoire avec les principes de la démocratie. Bien.
Et pourtant, on y est confronté au quotidien, et rien ne semble vraiment pouvoir lutter contre cette inégalité des chances.
Vous avez raison, il y a une sorte d'inertie que vous voyez dans tous les pays. J'avais regardé dans mon livre sur l'inégalité des chances, j'avais regardé des statistiques relatives à différents pays occidentaux. Eh bien, les sociétés scandinaves qui ont une très forte tradition, pendant très longtemps, ont eu une tradition politique, social-démocrate, eh bien, on s'aperçoit que l'inégalité des chances était aussi grande, pratiquement aussi grande dans les pays scandinaves que dans les pays du continent, par exemple. Les États-Unis disaient dans les années 60-70, les États-Unis étaient persuadés d'être une société où l'inégalité des chances était plus faible que dans les sociétés du vieux continent. C'était faux, quand vous regardiez les chiffres, c'est exactement la même chose. Alors il y a une très grande inertie de cette inégalité des chances. Je crois que c'est simplement parce qu'elle est due fondamentalement à des mécanismes psychologiques très simples. Là aussi, il y a beaucoup de causes.
Elles sont multiples.
Oui. Elles sont multiples, bien entendu. Par exemple, on sait très bien qu'une famille défavorisée peut moins aider les enfants à l'école qu'une famille plus favorisée. C'est une cause, ça. En moyenne, statistiquement, les aînés réussissent mieux à l'école que les cadets. Alors, pendant toute une période, vous avez eu les familles des couches défavorisées de la société étaient en moyenne plus nombreuses que les familles favorisées. Il en résultait qu'il y avait plus d'aînés dans les classes favorisées. C'est une autre cause. C'est plus le cas maintenant. Bon, mais la cause principale, c'est sans doute une cause psychologique extrêmement simple. C'est que lorsque vous avez un certain niveau scolaire qui vous donne certaines espérances sociales, eh bien, si ce niveau scolaire est plus élevé que celui des gens qui vous entourent, de vos proches, de vos parents, de vos cousins, etc., vous allez avoir l'impression que même un niveau scolaire moyen, s'il est plus élevé, ça va être une réussite. Tandis que si vous prenez quelqu'un qui vient d'une famille plus aisée, le même niveau scolaire sera considéré comme trop faible, parce que ne débouchant pas sur une position sociale analogue à celle des gens qui vous entourent. Alors vous voyez, il y a un mécanisme psychosociologique très très simple qui fait que il y a une espèce d'auto-sélection des gens qui fait que les jeunes des familles socialement les plus basses sont plus exigeantes à l'égard d'elles-mêmes en ce qui concerne les ambitions scolaires. Et alors, ça se répète dans le temps, parce qu'un cursus scolaire, ça dure très longtemps. Bon, c'est-à-dire que vous avez ce mécanisme se répète. Et comme il se répète, il a des effets multiplicatifs. C'est pour ça qu'au bout du compte, vous avez ce phénomène d'inertie, enfin, très, très, très grand.
D'où peut-être le besoin inhérent de discrimination positive ?
Oui, mais qui peut corriger les choses à la marge un petit peu et qui va engendrer des effets pervers, comme je vous disais tout à l'heure. Ce que je dis dans l'article que vous mentionniez au début, c'est qu'il y a un phénomène assez extraordinaire aux États-Unis, c'est qu'ils ont réussi à créer en 30 ans une vaste classe moyenne noire. En 1960, vous sortez de la ségrégation. En 1990, si vous allez dans les grandes villes américaines, vous apercevez que dans les banques, un petit peu partout, vous avez beaucoup d'employés bien habillés, avec un revenu suffisant, qui, en 30 ans, les causes de ça, c'est quoi ? C'est en partie, effectivement, la politique des quotas qui a été utilisée dans le domaine de l'université pendant un certain temps. mais c'est surtout autre chose. C'est surtout le fait que les Américains n'ont pas de carte scolaire depuis très longtemps. C'est-à-dire que la liberté de choisir l'école est très grande et que, d'autre part, les établissements scolaires sont extraordinairement diversifiés, de telle sorte que chacun trouve chaussure à son pied beaucoup plus facilement qu'ici.
Mais et alors, c'est ça justement, les établissements scolaires américains ont favorisé cette mixité, parfois à l'extrême, en prenant des bus de certains quartiers.
Les bus, oui, mais voilà. Ça n'a pas marché. Ça a été abandonné. Oui, ça a duré quelques années, du temps de la présidence Johnson, mais ça n'a pas marché. Et c'est pas ça, fondamentalement, qui a créé la classe moyenne.
Vous croyez ?
Non. C'est ce qui a créé la classe moyenne, c'est ce qui a toujours existé aux États-Unis, c'est que le système scolaire et universitaire est extraordinairement diversifié. Vous avez des universités qui sont les plus grandes universités mondiales, puis vous avez des universités qui feraient pâle figure à côté d'un lycée de banlieue parisien. Ça existe aussi. Il y a une extraordinaire diversification, à la fois du point de vue des types de curriculum, du point de vue du niveau de prestige, etc. Le résultat, c'est que tout le monde, après des hésitations, des essais, des erreurs, tout le monde finit par trouver sa voie beaucoup plus facilement que dans un système beaucoup plus unifié, uniformisé, comme le sont les systèmes continentaux et particulièrement le système français.
Mais ce que vous dites, ça m'apparaît contradictoire avec l'idée que vous avanciez avant, qui est qu'on n'a pas forcément, selon la classe sociale à laquelle on appartient, on n'aspire pas forcément aux mêmes choses. Donc, si dans une société où le système scolaire est très hiérarchisé, quand on vient d'une classe défavorisée, on va pas avoir idée. On voit ça aussi, ces établissements scolaires en France, universitaires, qui essayent de s'ouvrir justement à les discriminations positives. Il y a notamment le cas
Sciences Po.
Voilà, le cas pionnier de Sciences Po, qui justement essaye d'intégrer cette logique, de se dire, ces personnes n'ont même pas peut-être l'idée de venir faire Sciences Po, pour eux c'est inatteignable, donc ouvrons les vannes. Et là, au contraire, c'est une question d'égalité.
C'est très bien, c'est très gentil, mais on est un peu dans le symbolique. C'est-à-dire, ça porte sur des effectifs très très faibles par rapport aux effectifs potentiels. Tandis que si vous avez un système qui est...
Oui, mais là, ça joue sur les phénomènes d'identification dont vous parliez plus tôt.
Oui, bien sûr. Mais vous avez ça aussi aux États-Unis, quand vous avez le système des quotas. Vous avez eu ça aussi pendant un certain moment. Mais je vous dis, ça n'est qu'une partie, probablement quantitativement, pas la cause la plus fondamentale. La cause la plus fondamentale, c'est que vous avez moins d'échecs. Vous savez très bien qu'ici, ce qui caractérise beaucoup le système français, c'est le taux extraordinaire des échecs, hein, l'entrée à l'université, etc. Dans un système très diversifié comme le système américain, dont je ne fais pas du tout la panacée universelle, mais simplement c'est un système d'une nature un peu différente pour des raisons historiques, tout simplement parce que c'est un pays qui a été organisé beaucoup moins sous la tutelle de l'État et beaucoup plus comme l'effet de toutes sortes d'initiatives privées. Le résultat de cette histoire très différente des États-Unis, c'est que vous avez une très grande diversification des établissements. Et par conséquent, si vous sentez que vous ne pouvez pas aller à Harvard, tout le monde ne peut pas aller à Harvard, de même que tout le monde ne va pas à Polytechnique, eh bien, si vous ne pouvez pas aller à Harvard, vous essayez un niveau un peu plus bas, puis si ça ne marche pas, un niveau un petit peu plus bas, puis si cette filière ne va pas, vous allez en trouver une autre à côté, de telle sorte que vous allez trouver une porte d'entrée quelque part. Et vous n'aurez pas ce phénomène que vous avez ici de rejet, d'échec, etc.
C'est une attaque contre l'université que vous faites, surtout.
Non, pas contre l'université telle qu'elle est maintenant, enfin, mais elle est en train de changer. Elle est en de bonnes mains.
Revenons à Raymond Boudon sur le tout premier volet de l'égalité que nous avons abordé au tout début de l'émission, c'est l'égalité des droits, qui est intangible, qui est la base de la démocratie.
Celle-là, c'est la base de tout. Alors là, pas de compromis, c'est pas possible, l'égalité des droits. Parce que la démocratie implique l'égalité de dignité des citoyens, indépendamment de leur mérite, de la couleur de leur peau, bien entendu, de leurs compétences, de leurs contributions. Il y a une dignité fondamentale égale de tous les êtres humains, et ça vient de très loin. Ça vient de très loin, d'après le grand sociologue allemand Max Weber, ça vient au moins de Saint-Paul, lorsqu'il explique qu'il n'y a plus question, c'est terminé.
Il n'y a ni juif ni grec.
Il n'y a ni juif ni grec, c'est terminé.
Ni esclave,
il y a des hommes, point final. Bon, ceci dit, c'était un programme. C'est un programme qui a mis du temps à se réaliser, parce que si vous prenez l'esclavage, si vous prenez la France, par exemple, l'esclavage est aboli en 1848. Donc, il a fallu à peu près 2000 ans par rapport à Saint-Paul. Mais le principe a été posé Et Max Weber ajoute, il a une phrase merveilleuse, il dit que Saint-Paul a lancé un programme qui était appelé à occuper l'humanité pendant les 2000 ans qui allaient suivre. C'est ce que nous constatons.
Alors, on n'y est pas au bout, en plus.
Ah ben on n'est pas au bout, non. Parce que la notion de dignité humaine, c'est une notion floue. On ne peut pas définir la dignité humaine comme on définit un fauteuil, une chaise, hein, par le genre propre et la différence spécifique. Pourquoi ? Parce que c'est un programme, et un programme ouvert. Mais ce que vous constatez, c'est que ce programme se réalise de mieux en mieux. Vous avez eu, avec la Révolution, vous avez eu l'affirmation de l'égalité des droits politiques. Ça, l'histoire a été longue, puisqu'en France, il a fallu attendre 1945 pour que ces dames aient le droit de voter aussi. Donc, bon, mais c'est quand même à partir de la Révolution que l'égalité des droits politiques est affirmée de manière très ferme, mais l'histoire va durer assez longtemps. Après les droits politiques, vous avez eu les droits sociaux. Parler de Bismarck tout à l'heure, de Lord Beveridge, etc. Bon, il y a des droits sociaux, on a le droit. Mais ceci dit, les droits sociaux...
C'est la providence, comme dont on parle après 1945.
Oui, c'est ça. Mais ceci dit, là aussi, c'est ouvert. La grande difficulté, si vous voulez, de cette notion de dignité humaine, c'est une espèce de boîte de Pandore. Quand vous l'ouvrez, je vais risquer une métaphore, c'est une boîte de Pandore en forme de poupée russe. C'est-à-dire, quand vous avez ouvert la première boîte de Pandore, il y en a d'autres plus petites qui apparaissent. Alors, dans ces boîtes plus petites, vous avez la notion des droits sociaux. Et vous voyez bien que c'est, là aussi, c'est une boîte de Pandore. C'est une notion évolutive. Exemple très concret.
Le droit du travail,
est-ce que le droit du travail, alors ça fait un moment qu'on l'a affirmé.
Oui, mais tout le monde n'a pas un travail.
Mais tout le monde ne l'a pas. Plus récemment, l'affirmation du droit au logement. Alors, si c'est regarder l'histoire des mots, c'est très intéressant. Parce que le mot « droit au logement » est apparu avant que ce droit ne puisse être garanti. Alors les juristes s'arrachent les cheveux, disent, qu'est-ce que c'est que ça que des droits qu'on ne peut pas faire valoir devant un tribunal
enfin... C'est ça, dès la Constitution de 1946, était inscrit le droit au logement, le droit au travail, sans qu'il soit...
Opposable, comme
là,
on dit.
Oui.
C'est-à-dire que celui qui n'a pas de toit au-dessus de sa tête ne peut pas aller devant une cour de justice et dire à l'État, donnez-moi un toit.
Oui, mais qu'est-ce qu'un droit si c'est seulement une déclaration de principe ?
Ben, voyez, il faut être à la fois sociologue et juriste. C'est-à-dire, le sociologue vous dit que les droits, ils existent avant d'exister. C'est-à-dire qu'ils existent sous forme de demande publique avant d'exister sous forme de réalité juridique. C'est ça, c'est pour ça que les juristes s'arrachent les cheveux. Parce que pour eux, un droit qui n'est pas opposable, c'est pas un droit, c'est une contradiction dans les termes. Mais pour le sociologue, non. Le droit, c'est une demande. Et c'est une demande qui est partagée. C'est-à-dire que tout le monde, si vous faites un sondage là-dessus, tout le monde vous dira que ça serait normal que tout le monde ait un droit, ait un toit sur la tête. Ça fait partie de la dignité humaine. Simplement, alors à ce moment-là, on se heurte aux difficultés économiques. Pour garantir les logements, il faut qu'ils soient construits. Pour qu'ils soient construits, ça coûte cher, bon, etc. Donc vous avez une espèce de dynamique qui peut être surprenante à première vue. Un droit non opposable, ça peut être surprenant. Mais pas du tout, c'est pas surprenant du tout du point de vue sociologique. C'est tout le temps comme ça que ça s'est passé. Ça commence par une demande, la demande devient de plus en plus forte, et si les circonstances le permettent, alors à ce moment-là, le droit devient une réalité juridique, c'est-à-dire vous pouvez le faire valoir devant les tribunaux. Alors ça, c'est une des parties les plus fascinantes, qui rend optimiste d'ailleurs, parce qu'on voit des progrès se faire tous les jours. Hein.
Je vous trouve très optimiste, Raymond Boudon, de façon générale.
Mais écoutez, il y a tout de même, si vous regardez la réalité, évidemment, il y a du noir, bien sûr, il y a des difficultés. Mais l'histoire a toujours comporté une dimension tragique. Mais il faut voir aussi ce qui va de mieux en mieux, quand même. Le niveau de vie, pour prendre cette donnée-là d'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de difficultés pour toutes sortes de gens, est quand même sans aucun rapport avec celui de 1945. Regardez l'évolution alors de continents maintenant comme l'Amérique latine. Il y a 20 ans, 30 ans encore, moi j'étais au Brésil dans les années 70. J'avais une bonne amie qui m'a raconté, elle avait été incarcérée, on lui avait arraché les ongles. Enfin, donc c'était la dictature encore, il y a 30 ans seulement. On a l'impression aujourd'hui que la dictature, il y a des difficultés énormes, il y a des choses horribles au Brésil. On tue les enfants dans les rues, il y a des favelas, tout ce que vous voulez. Mais on a l'impression que... on a l'impression que la démocratie est irréversible. Enfin, même chose en Argentine. L'Argentine a eu un passé, il y a eu des bourreaux il n'y a pas encore tellement longtemps, il y a quelques décennies. Hein. On a l'impression que ça n'est plus possible maintenant. Regardez bon, l'évolution aussi de l'Asie, tout de même. La Chine, c'est un optimiste. Hein. La Chine s'est éveillée. Enfin, bon, ça crée toutes sortes de difficultés par ailleurs. Bon, enfin, on sait très bien que le paradis n'est pas de ce monde.
Alors, espérons que vous ayez raison. Merci beaucoup, Raymond Boudon, pour ces paroles sur l'égalité. Je rappelle donc à nos auditeurs que vous pourrez trouver l'article de Raymond Boudon dans le dernier numéro commentaire, celui du 30e anniversaire. Et puis, je vous recommande la lecture de tous vos différents livres, et en particulier celui sur l'inégalité des chances, qui parle spécifiquement de notre programme d'aujourd'hui. Merci, Raymond Boudon.
Merci à vous.